Et ceux à qui s'adressait l'énoncé étaient des variables de l'énoncé lui-même. Il va de soi que si je dis « je décrète la mobilisation générale ben, », je suis fou. Je suis fou parce que seul le président de la République a le pouvoir de dire « je décrète la mobilisation générale ». Je décrète la mobilisation générale est un énoncé qui a pour variable intérieure le président de la République qui est seul habilité, si bien que si moi je dis je décrète la mobilisation générale, c'est une proposition vide qui n'entraîne aucune conséquence, sauf celle de me faire enfermer si je me balance sur le boulevard en hurlant je décrète la mobilisation générale. Donc, en ce sens, je dis que le fait que les énoncés ou ce qui est dit ne soit dit qu'à certains destinataires n'est pas du tout une limitation de l'énoncé, ça renvoie à des variables intérieures à l'énoncé parfaitement déterminables. À qui ceci s'adresse-t-il ? Or, c'est une variable intérieure de l'énoncé selon Foucault. Alors, bien, on en finit avec cette longue parenthèse. Mais encore une fois, je voudrais que vous ne l'oubliez pas, parce que ça se trouvera à la fin de, pour la fin de notre recherche. On aura à revenir sur ces points quand on abordera la question « Qu'est-ce que c'est que la position d'une nouvelle subjectivité ?» Alors là-dessus... Ouais.
Au moins une chose, que tous les partis politiques, sans aucune exception, tous les syndicats, sans aucune exception, cachent actuellement à tout le monde, c'est que le chômage est un problème qui peut être résolu. Et que la technologie nouvelle va produire de nouveaux travailleurs et augmenter le nombre de travailleurs. La chose la plus masquée par tous les syndicats et tous les partis politiques actuellement. Personne ne dit.
J'ai peur, comtesse, que tu ne fasses le coup de « je décrète la mobilisation ». Peut-être, je veux bien.
Non seulement il y a une élimination actuellement du capital variable pour des super profits capitalistes, on le dit partiellement, ça. Mais ce que l'on ne dit pas, c'est que presque tous les travailleurs vont être complètement éliminés dans les années prochaines, et en l'an 2000, il ne restera plus qu'à peu près 10% de travailleurs qui travailleront encore avec l'informatique et la bureautique, et en général, toute la technologie nouvelle. Voilà ce que l'on ne dit pas, et personne ne dit actuellement ce que deviendront justement tous les gens qui ne travailleront plus.
Ça va, s'ils ne savent pas. S'ils ne savent pas, quand tu dis personne ne le dit, écoute, t'exagères. Hein.
J'ai discuté sur ce point-là, uniquement avec le second, l'allié de Edmond Maire de la CFDT. Il a déclaré publiquement, dans un congrès du parti organisé par le Parti Socialiste, que de toute façon, les nouvelles technologies allaient favoriser dans les années à venir une nouvelle production et une augmentation sur le marché du travail des travailleurs. Je lui ai dit, ça c'est un baratin absolu, c'est quelque chose qui renouvelle le baratin syndical concernant justement la représentation ouvrière. Je n'ai absolument pas d'accord avec ça, et puis il y a quelques années maintenant, cette tendance-là commence à se dessiner.
Ben, tu vois, tu le dis. Alors, écoute, moi, je vais te dire, je vais te répéter un discours que tout le monde entend, par exemple, dans la bouche de Raymond Barre. le discours de Raymond Barre depuis le temps où il était déjà à la fin de son moment de Premier ministre. Mais à plus forte raison, maintenant, le discours a pris de plus en plus d'ampleur. Ça consiste à nous dire, vous savez, l'idée d'un statut, d'une garantie statutaire du travail, est une chose qui renvoyait à un certain moment du capitalisme. Et Barre ajoute, moi qui ne fais pas de démagogie, je vous dis, le statut, la garantie statutaire du travail, est une chose appelée de plus en plus à être remaniée et mise en question. Et il faudra concevoir de donner de plus en plus d'importance au travail, premièrement partiel, deuxièmement intérimaire, troisièmement à toutes les formes de travail sans statut. Et il y aura une flexibilité de l'emploi qui fera que la notion même de statut qui garantit sera une notion pour certains privilégiés. Ces privilégiés auront intérêt à fermer leur gueule parce qu'ils seront de moins en moins nombreux. Accorde-moi, comtesse, que c'est le discours de Raymond Barre que je n'ajoute rien. On ne peut pas demander à quelqu'un de mieux dire tout. Alors, quand tu fais cette découverte importante, moi je crois que tu n'es pas le seul. On peut juste dire que Raymond Barre prend les devants, c'est-à-dire nous prépare. Oui, ben, tout le monde comprend très bien ce qu'il veut dire. Il veut dire, les syndicats, hein, les syndicats, arrêtez de faire chier, hein, parce que vous militez pour un travail garanti par un statut, or vous êtes déjà démodé. Vous êtes déjà démodé dans le capitalisme actuel. Et là, je rejoins mes thèmes. S'il y a eu une réinterprétation importante du marxisme en Italie, c'est pourquoi ? C'est que de tous les pays européens, avant 68 même, l'Italie était précurseur. Elle était précurseur avec et parce que un très vaste secteur de marché noir était intégré à son économie, bien avant la crise actuelle. La crise italienne, ce qui a fait que l'Italie a été très importante dans toute cette histoire que j'essaie de retracer, c'est que un très vaste secteur était vraiment, faisait partie de son économie. Et que, déjà, les formes de travail partiel, de travail intérimaire, s'affirmaient en Italie bien avant qu'elles n'apparaissent dans les pays européens. Et ça a été, je crois, ce secteur très curieux dans l'économie italienne, dont l'économie italienne avait besoin, pour des raisons propres à l'Italie, avant que ça ne passe dans les autres pays d'Europe. C'est ça qui a fait qu'en Italie, il y avait tous les ferments pour une espèce d'agitation ou d'autonomie. Vous comprenez, pour la découverte d'un nouveau secteur d'autonomie. Bon. Enfin, on retrouvera tout ça. Eh bien, nous revenons à notre problème. Oh là là! On vient à notre problème. Et notre problème, c'est quoi, si vous vous rappelez alors revenez à notre problème. C'est donc, on a défini ces rapports de pouvoir, hein, selon Foucault. Et notre question, c'était, bon, ils sont fluents, ils sont ponctuels, multiponctuels, ils sont diffus, etc., etc. Eh bien, comment vont-ils se fixer ? Comment vont-ils se fixer ? Ces rapports de pouvoir extraordinairement mobiles, extraordinairement diffus, comment vont-ils se fixer, se globaliser ? Ce qui revient à dire, eux qui n'ont pas de forme, comment vont-ils prendre forme ? En effet, le pouvoir va d'un point à un point. Il va de tout point à tout point. Mais en lui-même, il est informel. Le rapport de pouvoir est informel. Eh bien, comment va-t-il prendre forme ? C'est-à-dire, comment va-t-il se fixer, se stabiliser ? Ou bien il est stratégique, mais comment va-t-il se stratifier ? Ou bien comment va-t-il s'actualiser, puisque les rapports de pouvoir en eux-mêmes émergent, s'évanouissent. Donc, à la limite, ce sont des virtuels. Comment vont-ils s'actualiser? Ça revient au même. Comment vont-ils prendre forme? Comment vont-ils se stratifier? Comment vont-ils s'actualiser? C'est donc le passage, on en était là la dernière fois, c'est comme le passage du moléculaire au molaire. Et la première réponse de Foucault, c'est, eh bien oui, les rapports de pouvoir sont informels, mais ils s'intègrent dans des formes. Les formes, les grandes formes sociales, sont des intégrations des rapports de pouvoir multiples. En d'autres termes, la première réponse de Foucault, et j'insiste là-dessus, ce n'est que la première réponse, on verra pourquoi, la première réponse de Foucault consiste à nous dire l'actualisation, c'est une intégration. C'est une intégration. Les rapports de pouvoir sont des rapports, si l'on peut dire, moléculaires, de micro-rapports, qui s'organisent, qui s'intègrent dans des formes globales, intégration globale. Et ces formes sociales d'intégration, c'est ça qu'on appelle des institutions. D'où le renversement opéré par Foucault. Ce n'est pas l'institution qui explique le pouvoir, c'est le pouvoir qui explique l'institution dans la mesure où les rapports de pouvoir s'intègrent dans des institutions. Dès lors, quel est le rôle de l'institution? Ce n'est pas du tout de produire du pouvoir, c'est de donner au pouvoir le moyen de se reproduire. Dans l'institution, le pouvoir se reproduit, c'est-à-dire il se stratifie, il devient stable et fixe. C'est donc un passage du micro au macro, d'après ce qu'on a vu, ou du moléculaire au molaire. Et j'invoquais, parce que ça me paraissait un texte particulièrement intéressant et surtout très beau dans le texte de Foucault, j'invoquais la fin de la volonté de savoir, où Foucault invoque ce qu'il appelle une sexualité sans sexe. Une sexualité sans sexe, je disais, eh ben c'est ça, une sexualité moléculaire. Je dirais, si j'essaie de définir la sexualité comme ensemble de rapports de pouvoir, comme ensemble de rapports de force au pluriel, je dirais, c'est la sexualité moléculaire. Et on en était là, et je me prenais les pieds la dernière fois, parce que... je ne me retrouvais plus dans ma combinatoire, je disais, ben oui, on va s'aider pour essayer de comprendre, là, on va prendre des risques, qu'est-ce que ça veut dire une sexualité sans sexe, une sexualité moléculaire, les amours moléculaires. Alors nous avons des amours moléculaires, oui, sûrement on a des amours moléculaires, mais qu'est-ce que c'est, Ce qu'on voit, c'est des amours globales. Global, mais les amours moléculaires, elles sont peut-être nécessairement inconscientes. Hein. Moi, je vois en gros qui j'aime, mais ce que j'aime dans qui j'aime, ça c'est déjà plus obscur, c'est du moléculaire, ce que j'aime dans qui j'aime. qui j'aime, ça c'est du molaire. C'est une personne c'est une instance molaire. Mais qu'est-ce que j'aime en elle ? Ce geste minuscule que... Ah bon, c'est ça que j'aime, tiens. Peut-être que c'est autre chose, hein, mais vous voyez, c'est pas le même domaine. Des micro-amours. Dans nos amours molaires, il y a toujours du moléculaire. Hein. Petite mèche. Ah, c'est cette petite mèche. Ouais. En d'autres termes, c'est toujours des traits. C'est pas des formes. Les formes, ça fait partie de l'amour molaire. Hein. Ah, elle est belle. Comme elle est belle. Elle a le nez grec. Bon. Ça, c'est des formes. Mais les traits dynamiques, ah, oh, quand elle... Là, je suis pas enfant. Non, quand elle rejette ses cheveux en arrière, c'est formidable. Ça, c'est pas une forme. Hein. C'est pas une forme, ça, c'est moléculaire. Hein. Ou bien, oh, quelle manière elle a de hausser les épaules. Ah bon, tiens. Alors l'autre, il voit rien. Il dit, ah bon, elle hausse les épaules, c'est léger. Ouais, ça, ce sont nos amours moléculaires. Hein. Et je disais, bon, bah, aidons-nous de tout ce que nous pouvons pour comprendre cette idée de sexualité sans sexe. Et ben, je disais, paraît évident qu'il ne le dit pas, mais tant pis. C'est évident qu'il pense à Proust. Car Proust est vraiment celui qui a fait un tableau des amours moléculaires. Et que sinon, on ne peut pas comprendre Proust. Alors c'est parfait, comme ça on risque de comprendre et Proust et Foucault. C'est plus qu'on en demandait. Et je disais, voyez ce qu'il fait, Proust. Et c'est avant tout dans Sodome et Gomorrhe. Donc, je partais avec mes... voilà. Je disais, homme, ma combinatoire pour arriver au seuil, je dis pas, si on s'enfonce dans les amours moléculaires, vous savez, là, alors, ça va être terrible. Aussi, on s'en tient au seuil, hein, au seuil moléculaire, hein, qui va distinguer. Si je prends mes instances molaires, j'ai homme... et femme. Mais enfin, pour me réserver le droit, ou plutôt pour réserver un droit à toutes les anomalies, je dois dédoubler, puisque le rapport amoureux peut être homme-homme ou femme-femme autant que homme-femme. Donc j'ai deux hommes. J'ai H1 et H2. Et j'ai deux femmes. F1 et F2. Et puis, le seuil moléculaire, c'est tout simple. C'est que là, si je dis j'en reste à une macrosexualité, ça revient à dire, eh bien oui, il y a centralisation sous forme de tel ou tel sexe. Homme, homme, femme, femme. Comment je passe au seuil moléculaire? Je supprime la centralisation. Vous voyez, en même temps que vous me suivez, il faut que vous vous disiez que ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse au niveau du problème où on est actuellement, c'est le chemin inverse. Comment la centralisation naît. Moi, je suis forcé de prendre dans l'autre sens. Eh bien, chacun a les deux sexes à la fois. Vous me direz, mais alors c'est encore des sexes. Non, appelons ça des pôles. Chacun a les deux pôles. En effet, il n'a qu'un seul sexe, mais il a deux pôles. Pôle homme et pôle femme. Donc, H1, l'homme. À deux pôles, petit h et petit f. H2, à deux pôles, petit h et petit f. F à deux pôles, petit f, petit h. 1. J'obtiens le sexe global de quelqu'un en vertu du pôle prévalent. Et encore, je doute, il faut d'autres opérations. Et puis encore, il ne faut pas trop comprendre. Alors la dernière fois, je cherchais les combinaisons possibles et je ne sais pas ce qui me prenait. J'en voulais 7, je ne sais pas pourquoi. C'est évidemment pas 7. D'ailleurs, j'ai oublié la règle, c'est pas difficile, avec 4 termes à diviser, dont chacun est divisé en 2. Je me souviens plus de la règle, toute simple. Si bien que j'ai dû refaire empiriquement. Alors, c'est bien évident que si je pars d'un terme, j'aurai 4 rapports. Si je prends le second, j'en aurai 3. Si je prends le troisième, j'aurai 2 rapports. Et si je prends le dernier, j'ai plus qu'un rapport, puisque les autres sont couverts. Bonjour. C'est bien que j'ai 4 et 3, 7 et 2, 9, 10. J'ai 10 rapports possibles. Qui vont être les rapports de force ou les rapports de pouvoir dans la microsexualité. Alors, j'ai bien fait ma liste cette fois-ci. Je donne, hein, parce que je ne vais pas recommencer, ça nous prendrait une demi-heure. Hein. Je pars de H1 petit h. J'aurai H1 petit h en rapport avec H2 petit h. En rapport avec H2 petit f. 2. En rapport avec F1 petit f. Et en rapport avec F1 petit h. Voilà mes 4 rapports. Il n'y a pas lieu de dire F2 petit f et F2 petit h, puisque c'est la même chose, du point de vue de H1 petit h. D'accord ? 4 rapports. Hein, avec H2H, H2F, F1F, F1H. Bon. 4 rapports. 4 micro-rapports. Je passe à F, grand F1, petit f. Cette fois, j'ai 3 rapports, forcément, puisqu'il y en a un, il y en aurait 4 en droit, mais il y en a un qui est pris par ma série précédente. Donc, je peux en avoir que 3. Donc, F1, petit f, sera en rapport avec H1 petit f, F2 petit f, F2 petit h. Quant au rapport F1 petit f, H1 petit h, il est pris dans la série précédente. Donc je n'en ai que 3. Ça m'en fait 7. 4 plus 3, 7. Si je prends maintenant H1 petit f, pour la même raison, j'en aurai plus que 2. Puisqu'en droit, il y aura 4 rapports, mais l'un sera pris dans la série H1 petit h et l'autre sera pris dans la série F1 petit f. Donc pour H1 petit f, j'aurai H2 petit f et F1 petit h. Ah. C'est des exercices pratiques, ça. C'est un cours de sexologie, ça. Je ne vois pas quel usage vous pouvez en faire, mais on ne sait pas. Et enfin, si je prends F1 petit h, je n'ai plus qu'un seul rapport avec F2 petit h. Donc j'ai 10 rapports, 10 rapports moléculaires. C'est ça qui définit la série des amours moléculaires. D'où les textes extraordinaires de Proust, dans Sodome et Gomorre. Où il dit, mais vous savez, homosexualité, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce qu'un homme peut trouver avec une femme les plaisirs qu'il attend d'un autre homme. En effet, prenez la combinaison. H1, H, en rapport avec F1H. Ben oui. À ce niveau, il y a une sexualité moléculaire qui n'est plus ni homosexuelle ni hétérosexuelle. Il y a une multiplicité de rapports. Il y a une multiplicité de rapports. C'est une microsexualité. Bien. Je demande si vous m'accordez ça. Cette microsexualité, je demande, et voyez notre jonction avec le problème Foucault. Comment s'intègre-t-elle, cette microsexualité? Elle s'intègre de deux façons. De deux façons. Alors, je dirais, il y a une intégration, mettons, comme ça. Elle s'intègre d'abord verticalement en deux séries homosexuelles. Série homosexuelle, il y a un appareil qui va éclater. Hein? Il bourdonne, pas normal. Je ne sais pas lequel c'est. Ça va sauter. C'est la série HH. La série HH est globalement homosexuelle mâle. Puis vous avez une autre série homosexuelle, FF. Or, parmi mes 10 combinaisons, c'est centré, ces deux séries s'appuient sur 6 combinaisons. 6 sur les 10. En effet, 3 pour HH. 3 pour FF. Et puis j'ai une autre intégration, une intégration que je dirais cette fois-ci horizontale. Cette fois-ci, c'est les 4 séries subsistantes, les 4 dernières séries qui s'intègrent dans les amours hétérosexuels, c'est-à-dire dans la série HF. Bien. En quoi ça concerne Proust? Ça concerne Proust parce que je vous disais, si vous prenez le schéma des amours dans Sodome et Gomorre, peut-être est-ce que vous comprendrez dès lors le cheminement de Proust. Il y a quelques homosexuels notoires dans La Recherche du Temps Perdu. Et puis il y a des amours hétérosexuels. Par exemple, le narrateur et Albertine, ou le narrateur et Gilberte. Il part, et c'est ça qui fait toute la conception de l'amour. Il part d'une espèce d'ensemble. Ensemble constitué par les amours hétérosexuels. Et puis, de ses amours hétérosexuels, il dégage avec angoisse et horreur deux séries homosexuelles. Le narrateur aime Gilberte et puis il aime Albertine. Il va s'apercevoir que Albertine, sûrement, Albertine est coupable. Elle a aimé, elle aimera d'autres femmes. Il extrait d'un amour hétérosexuel une série homosexuelle. Et de l'autre côté, il fait la même extraction. Il y a, bien sûr, Charlus, série homosexuelle, tout comme Albertine renvoie en secret à d'autres femmes. Charlus renvoie en secret à d'autres hommes. Et vous vous rappelez que l'idée que Charlus est homosexuel, si évidente qu'elle soit, n'est que découverte peu à peu par le narrateur dans la recherche. Il ne se le donne pas. Charlus est bizarre. Il a l'air d'un fou. Et c'est bien plus tard que le narrateur comprend. Ah, le secret de Charlus, c'était cela. Quitte à s'apercevoir que le secret de Charlus dépasse infiniment cette homosexualité. Donc, il extrait de l'ensemble des amours hétérosexuels deux séries homosexuelles. Et là, il y a les grandes pages de Proust sur la faute, la culpabilité. Culpabilité originelle des amours, a priori coupable, coupable a priori. Coupable a priori, pourquoi ? Parce que Albertine renvoie nécessairement à d'autres femmes. C'est l'abominable prophétie. Chaque sexe mourra de son côté. Les sexes sont séparés. Et je disais simplement, c'est une faute du lecteur, une faute inexcusable, tout à fait inexcusable, de s'en tenir à ça. C'est notre bout du tragique, je vous disais la dernière fois. Il faut toujours que... Alors que pour les grands auteurs, généralement, le tragique, c'est toujours un mauvais moment à passer. Et il nous faut aborder un dérivage beaucoup plus joyeux. On se dit, ah ben oui, la race, ce que Proust appelle la race maudite. Or, en fait, il y a deux races maudites, la race de Sodome et la race de Gomorre. La race de l'homosexualité masculine, la race de l'homosexualité féminine, et, vous voyez, l'ensemble des amours hétérosexuels se décompose suivant ces deux séries maudites. Mais, je vous disais, Proust, il n'en reste pas là, parce que la culpabilité, encore une fois, il en fait son affaire. Il en fait son affaire sous quelle forme ? C'est qu'il s'aperçoit que ces deux séries, c'est pas le dernier mot de la sexualité. Et que ces deux séries baignent dans une espèce d'ensemble, de multiplicité, d'une toute autre nature que l'ensemble des amours hétérosexuels dont on était parti, à savoir dans une sorte de multiplicité, de sexualité moléculaire, où il n'y a plus de sexe à proprement parler, mais où il y a des pôles. Où il n'y a plus deux séries, mais 10 rapports d'un pôle à un autre, c'est-à-dire d'un point à un autre. 10 rapports d'un point à un autre. Où là, ce ne sont plus les deux formes, homme et femme, qui sont en rapport, soit pour s'unir, soit pour se séparer. Mais où toutes sortes de rapports se tendent entre des points, le point petit h et le point petit f, qui est aussi bien contenu dans la grande forme grand H que dans la grande forme grand F. Et que là, donc, vous avez 10 rapports qui constituent la sexualité moléculaire. Bien. Alors, je dis, du coup, je passe à Foucault. La sexualité sans sexe. C'est cette sexualité polaire. C'est l'ensemble des 10 rapports qu'on vient de voir. C'est ça, la multiplicité moléculaire. l'ensemble des rapports de force ou de pouvoir qui définissent une sexualité moléculaire. Là-dessus, question, mais vous voyez, c'est comme un virtuel. Avec chaque fois la question la plus simple, la question la plus simple de la sexualité moléculaire, c'est non pas, par exemple, un homme aime une femme, mais un homme aimant une femme, quel pôle de lui-même est en rapport avec quel pôle de la femme ? Est-ce mon pôle masculin qui est en rapport avec le pôle masculin de la femme ? Ou bien en rapport avec le pôle féminin, ou inversement mon pôle féminin qui est en rapport, etc. C'est-à-dire quatre rapports. Quatre rapports rien que pour moi, quatre rapports pour l'autre. Ça se complique. Et je demande alors, cette sexualité moléculaire, qui est tellement virtuelle, diffuse, impossible à localiser, comment est-ce qu'elle s'actualise ? Comment est-ce qu'elle produit quelque chose de stable, un amour stable et fixe, un amour institué, un amour institutionnel, ben précisément. Je dirais que les deux séries homosexuelles sont des intégrations, sont de premières intégrations de la sexualité moléculaire, et que les amours hétérosexuels sont comme une seconde intégration. Je dis ça parce que ça me sert beaucoup en mathématiques et dans la théorie de l'intégrale. On distingue les intégrations dites locales et les intégrations globales. Je dirais que les deux séries homosexuelles sont les intégrations locales de la sexualité moléculaire. Et les amours hétérosexuels sont l'intégration globale des amours moléculaires. La sexualité sans sexe s'intègre dans le sexe, soit sous la forme des deux sexes séparés, structure bisexuelle, soit sous la forme du sexe comme grand signifiant. Le sexe n'est pas la sexualité, c'est l'intégrant de la sexualité. Voilà ce que voudrait dire sexualité sans sexe. Ça doit vous rappeler quelque chose quand on parlait des postulats. Tout à fait au début de cette analyse de la notion de pouvoir. Je disais pour Foucault, vous comprenez, la loi c'est quoi ? La loi, elle ne s'oppose pas à la légalité, à l'illégalité. La loi, elle ne peut pas être pensée hors, en dehors de sa corrélation avec les illégalismes, ce que Foucault appelle les illégalismes. C'est exactement la même chose. Je crois que c'est le même raisonnement qu'on retrouve là. À savoir, la loi, c'est une intégration. La loi, c'est une intégration de l'ensemble des illégalismes qui ont cours dans un champ social. Si bien que, peut-être, prend un peu plus de consistance, l'idée simple suivante, alors, les rapports de force ou de pouvoir s'actualisent par intégration. Ils s'intègrent dans des institutions. Et c'est comme cela qu'ils prennent une stabilité, une fixité qu'ils n'ont pas par eux-mêmes. Si bien que je reprends les institutions. Famille, école, dans leur ordre presque chronologique, dans l'ordre chronologique de notre passage par elle. Famille, école, armée, usine, prison, pour finir sa vie. Bon, si on suit cet ordre exemplaire, voyez, je dirais que chacune de ces institutions est une intégration d'un ensemble de rapports de force. Ce sont, je dirais, des intégrations locales. Et l'État, c'est quoi ? Ben, l'État dans nos sociétés, sans doute, dans la mesure où il tend lui-même à sommer un nombre plus ou moins grand d'intégrations locales, par exemple dans la mesure où il se charge de l'école ou d'une grande partie de l'école, dans la mesure où il s'approprie les prisons, je dirais que l'État, c'est le modèle même d'une intégration globale et continue. Si bien que pour toute institution, je demanderai autour de quelle instance molaire l'intégration se fait. Quelle est l'instance molaire qui produit l'intégration des rapports moléculaires ? Et je dirais, ben, par exemple, pour la famille, l'instance molaire, ça a été longtemps le père. Pour la sexualité, l'instance molaire, c'est le sexe. Pour le droit, l'instance molaire, pour la justice, l'instance molaire. Pour l'institution de justice, l'instance molaire, c'est la loi. Pour l'instance politique, l'instance molaire, c'est le souverain. Et on ne s'étonnera pas qu'entre toutes ces instances molaires, il y ait des échos. Le souverain est-il un père ? Le sexe est celui du père. Le souverain, etc. Enfin, bon, la loi, rapport du sexe et de la loi. Tout ça, quoi, tout ça. Bien. D'où peut-être est-ce que vous comprenez mieux, à ce moment-là, le texte suivant de la volonté de savoir. Il faut supposer, je lis lentement, parce que là, ça doit être limpide maintenant. Il faut supposer que les rapports de force multiples, qui se forment et jouent dans les appareils de production, les familles, les groupes restreints, les institutions, voyez, forment alors une ligne de force générale qui traverse les affrontements de force et les relie. En d'autres termes, l'intégration des rapports de pouvoir dans des instances molaires va produire quoi ? Un alignement des forces, une homogénéisation des forces, une mise en série des forces. C'est tout ça que va faire l'intégration. L'intégration des rapports de force va produire un alignement, une homogénéisation, une sériation des forces. D'où on peut comprendre, on peut revenir à quelque chose sur quoi on a passé tellement de temps, si vous vous rappelez. Mon histoire de Hazard et de la courbe. Je reprends très vite. AZERT. AZERT. Qu'est-ce que c'est ? C'est une émission de points de singularité. AZERT. C'est AZERT 5. C'est 5 lettres. Les lettres, ce sont les points de l'alphabet. Voilà cinq lettres. Je dis, c'est cinq singularités. C'est cinq termes singuliers. Cinq termes singuliers prélevés sur l'alphabet. Voilà, c'est ça, AZERT. C'est une émission de singularité. Je peux dire, je pourrais les définir phonologiquement. Mais, bon, ce sont des hauteurs, des caractéristiques, c'est des, d'après leur son phonétique. Bon, supposons, là, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est une combinaison de singularité quelconque. Disait bien, entre ces points, il n'y a jamais que des rapports de force. Qui expriment des rapports de pouvoir. Ça veut dire quoi au niveau des lettres? On l'a vu, c'est des rapports de fréquence, de groupement. Ça, c'est des rapports de force entre lettres. Même entre les lettres, il y a des rapports de force. Bien plus, des rapports de force, non seulement entre les lettres, mais entre les lettres et les doigts, puisqu'il s'agit d'une machine. Alors, bon, voilà, c'est tout, c'est tout. Ça, c'est le niveau moléculaire. J'énonce AZERT, énoncé. C'est un énoncé, à partir du moment, en effet, j'énonce l'ordre des lettres.